Bonjour, bienvenue dans l'espace balado de l'ADA. C'est toujours Pierre-Alexandre Blouin derrière le micro, cette fois-ci pour une petite émission spéciale sur la reprise d'entreprise. Pour bien comprendre le reprenariat, un sujet vaste qui peut prendre plusieurs formes, nous avons décidé de scinder le sujet en deux parties dans des balados distincts. Dans la première partie, nous allons essayer de trouver la recette optimale de l'entrepreneur et quelles sont les principales étapes d'une reprise d'entreprise. Je suis aujourd'hui en compagnie de Stéphane Bourgeois, spécialiste en transfert d'entreprise à la Banque nationale. Ton titre exact, Stéphane?
Directeur principal de l'équipe transfert d'entreprise. Donc, l'équipe qui existe depuis 15 ans déjà. Donc, 7 personnes qui couvront le Canada au complet avec un spécialiste en agricole même avec nous dans l'équipe.
Bien, merci beaucoup d'être avec nous. On va essayer de passer à travers cette question nébuleuse et préoccupante. Là, je regardais des statistiques qui ne sont pas nécessairement spécifiques aux détails alimentaires, mais on parle de plusieurs milliers d'entreprises à reprendre dans les prochaines années. Donc, on imagine quelques centaines chez nous. On voit aussi que l'âge des propriétaires de PME au Canada est assez préoccupant. On a vieilli. On parle de près de 50 % de plus de 50 ans. Donc, on se doute qu'ils n'ont pas nécessairement tous 40 ans d'ambition d'entrepreneur devant eux. Donc, comment on fait, première question, comment on fait pour stimuler les jeunes à vouloir prendre la relève des entreprises?
Tabarnouche, stimuler les jeunes, je pense au départ, c'est de leur faire voir, leur faire comprendre c'est quoi la réalité d'être un entrepreneur. Qu'est-ce que ça prend pour être un entrepreneur? Je pense qu'il faut s'imaginer, il faut sortir de l'image qu'on avait de l'entrepreneur d'il y a 20, 30 ou 40 ans, là, ceux qui travaillaient là, 60, 70, 80 heures par semaine. L'entrepreneuriat a changé, a évolué. Puis je pense qu'il faut, il faut le présenter comme un métier aujourd'hui. C'est un métier qui demande qui demande des habiletés particulières, qui a des exigences particulières aussi là, dans sa façon d'agir, de penser, dans les skills nécessaires. Mais c'est un métier d'être entrepreneur. Je pense que c'est vers ça. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu regardes les HEC, quand tu regardes l'Université Laval, de plus en plus, on va avoir des cours en entrepreneuriat, en repreneuriat pour les jeunes. Il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui arrivent au marché. Puis ça, c'est le fun, puis ça, c'est intéressant. C'est bon signe pour ceux qui sont en position de vouloir prendre leur retraite puis céder leur entreprise.
Il reste qu'historiquement, dans notre secteur d'activité, on voyait aussi beaucoup des employés qui progressaient au sein des entreprises. Donc, ils n'ont peut-être pas ces backgrounds scolaires-là, donc ils n'ont pas été chercher ces compétences-là. Est-ce qu'il est trop tard? Qu'ils peuvent aller les chercher?
Assez surprenamment, c'est drôle parce que la semaine dernière, justement, j'étais à l'Université Laval. Je donnais un cours, je participais avec Marie-Pierre Tremblay, là, qui est quand même quelqu'un qui a bonne réputation au niveau universitaire. Puis, je donnais un cours à des étudiants. Puis, dans ces étudiants-là, il y a des gens qui sont en processus d'acquisition d'entreprise. Donc, ils sont retournés aux études, aller chercher un background. Je parlais avec un justement hier en fin de journée. Il était au cours jeudi, puis lui, il est déjà tout dans son minding de préparation. Fait que les gens qui sont déjà en entreprise peuvent retourner à l'école, peuvent retourner se former, aller chercher un bagage d'expertise bien particulier qui va les aider à devenir des entrepreneurs. Parce que c'est comme d'autres choses, là. Rares sont ceux qui viennent au monde avec toutes les habiletés nécessaires pour être entrepreneur. Il faut que tu ailles chercher, il faut que tu te mettes à jour constamment. Là.
Donc, c'est un processus. C'est pas quelque chose qu'on, du jour au lendemain, moi, je suis entrepreneur, je vais réussir, ça va bien fonctionner.
Pas nécessairement. Je pense qu'il y a une recette de base. Il y en a qui ont réussi parce qu'ils avaient une très, très bonne idée. Ils sont arrivés premiers dans un marché, étaient leaders rapidement du marché. D'autres parce qu'ils ont mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie à bâtir, à structurer leur organisation. Puis, il y en a qui ont le pif. Il y en a là, qui ont le feeling de l'entrepreneur. Là, ils l'ont de façon naturelle. Mais c'est possible pour quelqu'un. Quand on regarde qu'on est dans des processus de transfert aux employés ou des processus de transfert à la famille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir accompagner cette relève-là. On va la former. Donc, que tu sois aujourd'hui, que tu aies les connaissances ou non, si tu as les aptitudes à être un entrepreneur, bien, tu es capable d'avoir des gens qui vont venir t'entourer, t'encadrer, puis te donner les connaissances nécessaires pour l'être éventuellement. Là.
Donc, c'est pas uniquement une transaction financière.
C'est loin d'être une transaction financière, très loin. C'est d'abord et avant tout une transaction d'émotion. c'est la première chose, là, il faut prendre en tête que c'est une transaction entre des humains. Le financier, le cartésien, le fiscal, le légal, il va venir prendre place à travers la transaction. Mais au départ de tout ça, là, c'est des émotions. Là. Le cédant, là, celui qui décide du jour au lendemain de vendre son entreprise puis embarque dans son processus, il va vivre quelque chose de déchirant. Là. Quand ça fait 20, 25, 30 ans que ton entreprise, puis tu la vends.
Est-ce que tu fais confiance à celui qui s'en vient?
Oui, effectivement, mais ça dépend effectivement de quel type de cédant que tu es. Est-ce que tu es un cédant pour qui la pérennité d'entreprise est importante ou ce que tu cherches, c'est le meilleur prix possible? Et ça amène sur deux orientations, deux choix d'acheteurs qui sont complètement différents. Puis ce que tu vas vivre à la fin va être complètement différent. Mais pour l'entrepreneur, pour qui la pérennité là, est importante, là. Ce matin, j'étais avec un entrepreneur là, pour qui, là, lui, c'est important. Là. Ça fait 50 ans que l'entreprise existe, c'est son père qui l'a parti. Ils sont dans la soixantaine et là, ils sont prêts maintenant à vendre l'entreprise. Même, ça fait 6 fois que je change d'idée dans la dernière année. Là. Je vends pas, je vends tout, je vends en partie, je reste pas. Parce qu'il y a un choix déchirant. C'est non seulement sa job, une partie de son histoire à lui, mais c'est l'histoire de la famille. Là. Il va vendre, il veut vendre des avants aux employés. C'est son père qui a parti de l'entreprise. C'est tout le déchirement dans toute la relation qu'il a personnellement avec l'entreprise. Là. Il vit des émotions qui sont incroyables. Là. Puis les employés qui sont de l'autre côté, qui se préparent à acheter l'entreprise, mais ils vivent leur style d'émotion eux autres aussi. Là. Quand ils apprennent ce matin que le cédant, mais il cède peut-être plus 100% de ses actions ou qu'il change d'idée, mais eux autres, ils embarquent dans un processus d'émotion aussi. Là. Fait qu'avant d'être des chiffres, là, ça se passe dans les tripes. C'est là que ça se joue. Là.
Pour être sûr qu'on n'échappe pas des choses importantes, là, dans le fond, parce que je vois que tu as été chercher certains des éléments importants, mais par où est-ce qu'on commence? C'est quoi les étapes pour faire un bon transfert d'entreprise?
Pour le cédant, là, la première chose, là, c'est d'être capable de se projeter dans l'après-transaction. Suis-je réellement prêt à vendre mon entreprise? C'est la première question qu'il doit se poser. Puis c'est la première réponse qu'il doit trouver. Parce que tant et aussi longtemps qu'il ne trouve pas cette réponse-là, embarquer dans un processus de transfert, ça va être extrêmement difficile pour lui. Parce qu'à chaque fois qu'il va avancer, qu'il va faire croire au repreneur éventuel qu'on arrive à une piste de solution, si dans sa tête, il n'y a pas de date, il n'y a pas de moment, puis qu'il n'y a pas d'après-vie après l'entreprise, là, on va reporter constamment. Puis du côté du repreneur, ça va créer de la frustration. Du côté du repreneur, mais c'est un petit peu le même type de préparation. C'est-à-dire qu'il faut que je sache, mais c'est quoi mes forces? Qu'est-ce que j'apprécie? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Comme quel type d'entreprise qui m'intéresse? C'est quoi la taille de l'entreprise? Dans quelle région géographique? Il faut que je me dresse un profil du type d'entrepreneur que je veux être, du type de business que je veux avoir. Puis une fois que tu as ce cadre-là, mais continue à naviguer dans la recherche en restant dans ce cadre-là. Trop souvent, on va voir des repreneurs qui, après 6 mois, 9 mois, 1 an de recherche, on va dire, ouais, mais regarde, je vais changer d'orientation, puis je vais me trouver la prochaine business qui va être disponible. Tu n'aimeras pas ça, puis ça va paraître, ça va transparaître au niveau du cédant qui va sentir qu'il n'y aura pas de fit entre les deux, puis il n'y aura pas de transaction. Reste dans ton cadre. Reste dans ton cadre, c'est la clé. Le cadre, il peut changer. Il peut bouger. Il y a des événements qui peuvent se produire qui font en sorte que ça va bouger à travers le temps, autant du côté du repreneur que du côté du cédant. Mais avoir un plan de match, là, c'est la clé, c'est par ça qu'on commence. Là.
Pas compliqué d'avoir un plan de match? Ça coûte pas cher? Ça prend pas du temps?
Bien, ça coûte pas cher. Ça dépend si tu es capable de le faire tout seul ou si tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Ce qu'on recommande, c'est dans un processus comme celui-là, on recommande aux entrepreneurs de se faire accompagner. Avoir un coach d'affaires, avoir quelqu'un qui est capable de t'aider à réfléchir, qui va être capable de te faire réfléchir toi, mais les gens autour de toi aussi, là. Ta famille, tes amis, c'est quoi les impacts? Tu sais, ça fait 30 ans, 40 ans, tu travailles dans une entreprise, tu lui donnes 60, 70 heures par semaine, ta conjointe, elle ne te voit pas, elle a son rythme de vie, elle a son propre agenda, puis du jour au lendemain, tu vas revenir à la maison 7 jours par semaine, 24 heures sur 24. J'ai arrivé une conjointe qui nous a dit, là, écoutez, là, moi, je ne vais pas le voir 7 jours par semaine, 24 heures sur 24 chez nous. Il n'est pas prêt à prendre sa retraite, puis moi, je ne suis pas prêt à l'accueillir chez nous. Tabarnouche, OK, lui, il pensait que ça allait prendre sa retraite dans un an, là. Ils ont dû se préparer, se minder les deux, à embarquer dans un processus de réflexion pour s'assurer que quand ils vont arriver, effectivement, les deux dans leur même chemin, à la même, au même moment, mais que ça va fonctionner. Puis même chose pour le repreneur. Le repreneur, ce n'est pas juste une décision pour lui, c'est une décision qui va affecter son conjoint, sa conjointe, qui va affecter les enfants, qui va affecter le rythme de vie familiale. Fait que ça aussi, il faut impliquer les gens autour de nous dans notre réflexion d'entrepreneur, de futur entrepreneur, pour être certain que le choix qu'on fait aujourd'hui, là, mais c'est un choix qui fonctionne. Parce qu'on voit des transactions dans lesquelles les repreneurs embarquent comme employés, repreneurs potentiels en management buyout, puis arriver pratiquement à la fin du processus. Puis là, tu as un ou des conjoints qui lèvent la main et disent « ben moi, je veux pas que tu deviennes entrepreneur ». Puis ils se retirent du projet, puis on recommence au complet le processus de A à Z. Là. Ça arrive aussi. Là. Donc, la préparation, c'est important. Nous, on recommande fortement qu'il y ait quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un qui aide à la réflexion, qui s'assure qu'on a tous les angles de vue dans cette prise de décision-là.
On a parlé de conjoint-conjointe. Il y a un changement démographique aussi dans la population qui travaille. Il y a, j'imagine, aussi de plus en plus de repreneuses également dans les entreprises. Est-ce que c'est la même recette ou il y a des besoins particuliers pour les femmes qui se lancent en affaires dans
la recette d'entrepreneuriat est la même. La grande distinction, parce que malheureusement, on voit très peu de repreneuses de l'externe. On va en avoir dans le familial, on va en avoir un petit peu quand c'est le management qui reprend une entreprise, mais vraiment des femmes entrepreneurs qui se lancent au marché pour racheter une entreprise, il y en a très peu encore. Puis le gros écart, c'est la version risque. Le processus, c'est le même, mais la façon de structurer, d'organiser puis de bâtir le financement, là, il est différent. Parce que la femme, dans sa nature, elle a une aversion au risque qui est beaucoup plus prononcée, qui fait en sorte que ça peut rendre plus complexe certaines transactions. Parce qu'elle va désirer avoir moins de financement, moins de pression, moins de risques globalement dans le projet d'affaires. Puis ça, on le voit régulièrement dans les transactions. Là. Parce que c'est plus facile dans ces situations-là, mais le cédant, il va être un parent ou il va travailler avec les gens depuis 15, 20, 25 ans. Il va aider dans la structure de financement, il va aider à diminuer ce risque-là en supportant, en finançant une partie de la transaction. Donc, dans ce contexte-là, la femme qui embarque dans un projet comme celui-là va se sentir à l'aise parce que le niveau de risque est moins élevé. Mais quand on arrive carrément de l'externe pour venir faire une acquisition, là, c'est différent. Le poids financier de la transaction, là, éveille certains sensors chez la femme au niveau du risque. Puis on le voit, c'est plus difficile de bâtir les projets.
Que ça change ou c'est quand même quelque chose qui est stable en termes de d'attitude?
Non, c'est assez étonnamment, là, c'est encore là. On le voit là, régulièrement là, dans les rencontres, dans les meetings. Là, mais ça fait pas, je dirais, ça fait de meilleures entreprises par contre. En termes de structure, parce qu'elles vont pousser à ce qu'il y ait plus de capitalisation, donc pousser à ce qu'effectivement, il y ait moins de risques d'affaires au projet. Dans certaines transactions, les hommes sont beaucoup plus cow-boys au niveau du financement. Ça augmente le risque. Ça va pousser les autres à voir que, avoir de l'équité, là, avoir une bonne structure financière saine, c'est bon. Effectivement, il y a un niveau de risque pour le banquier qui est pas mal plus intéressant à ce temps-là.
On parle de banque, on parle de valeur. Comment on fait pour évaluer la valeur de l'entreprise?
Bien, ça, c'est pas nous qui allons faire ça. Hein. On laisse des spécialistes. Il y a des évaluateurs d'entreprise qui sont là, qui vont faire leur job, qui vont faire leur métier, qui vont évaluer au marché combien vaut cette entreprise-là. Mais je mets un bémol sur la valeur d'entreprise. C'est un indicateur. C'est un indicateur approximatif de la valeur. On disait, je le disais tantôt, si chaque personne a une aversion au risque qui est différente, nécessairement, on va avoir des prix qui vont être différents. Nous deux, aujourd'hui, on a probablement une aversion qui est différente. On va regarder les mêmes états financiers pour voir avec un pricing qui est différent, même s'il y a une évaluation qui est faite. L'évaluation donne un indice. Maintenant, c'est quelle est mon aversion au risque? Puis après ça, quel type d'acheteur je suis? T'sais, vendre à un stratégique, d'un matin, je suis dans un réseau où il y a des corporations qui refont des acquisitions pour transformer les commerces en type corporatif. mais nécessairement, ces stratégiques-là vont être intéressés à payer plus cher parce qu'ils vont avoir des économies d'échelle. D'un matin, moi, j'ai de l'intérêt à acheter un magasin alimentaire. J'ai peu d'expérience dans ce domaine-là. Je connais le retail pour y avoir déjà été, mais je connais pas le monde alimentaire. Je connais pas ce modèle d'affaires-là plus particulièrement. Mon niveau de risque est beaucoup plus élevé. Nécessairement, je vais être moins intéressé à donner un gros prix pour ça. Et c'est là qu'on va voir des écarts dans le pricing. Donc, l'évaluation, c'est un indice de ce que peut valoir l'entreprise en fonction de l'œil actuel de cette entreprise-là. Mais c'est relatif à chaque personne. C'est pour ça qu'il y a des négociations. C'est pour ça qu'il y a des avocats aussi dans des transactions.
Ça pourrait pas être si simple, hein?
C'est ça qui est le challenge. C'est ça qui est le fun. Ça serait même trop facile sans ça.
Puis, est-ce qu'il y a un bon moment, dans le fond, pour vendre une entreprise?
Oui.
Oui, vraiment?
Oui. Bien, il y a un bon moment. C'est pas une date. Il y a un timing de vente. C'est-à-dire que trop souvent, les entrepreneurs vont entendre de réaliser leur meilleure année financière avant de dire, « OK, là, on est au max, là, je me lance dans la vente. » Et très souvent, ce que ça fait, c'est que ces entreprises-là, mais ils ont atteint un pic. Au moment où on commence vraiment à rentrer dans le processus de vente, et là, tout doucement, notre baya va baisser un petit peu. On va avoir... L'entrepreneur, de façon inconsciente, va mettre un petit peu moins d'énergie, va délaisser certains éléments qu'il contrôlait très bien. On va voir une petite baisse du baya. Au moment où il va réellement vendre, mais il va attendre 2 ans, 3 ans, puis il va se rendre compte que son baya va moins. Puis là, ça rend plus difficile la négociation. Parce que dans la tête de l'entrepreneur, là, sa valorisation, c'est quand il a atteint le pic de son baya.
Il a oublié que le temps a passé. Puis...
Exactement. Donc, la clé, c'est, j'ai une courbe de croissance, mon entreprise va bien, là. Embarque dans ta réflexion de vente, commence à préparer ton processus. Puis ce qui est très important, c'est, même si tu penses à vendre, continue à travailler sur ta croissance. Donc, le meilleur moment pour commencer, c'est, j'ai une entreprise qui est dans une courbe de croissance, commence à approcher tes employés, commence à approcher la famille, commence à approcher des gens de l'externe, embarque dans ton processus de vente, parce que de toute façon, ton acheteur, là, il va négocier pendant un an et demi, 2 ans, puis quand tu vas arriver à la fin du processus pour réellement vendre, bien, ton entreprise va continuer à prendre de la valorisation, puis ça va rassurer l'acheteur à ce moment-là. Puis probablement que tu vas être capable de négocier une prime de croissance future sur ton multiple, parce que l'acheteur va se dire, mais regarde, tu as raison. Aujourd'hui, dans les dernières années, tu as fait grossir le baya de 100 000, 200 000, 300 000 par année depuis les 5 dernières années. Bon, on peut se douter que de façon naturelle, il va y avoir une tendance à la hausse, puis cette prime-là va être payable. Donc, le meilleur moment pour commencer, c'est, je suis dans une courbe de croissance, je commence à négocier là, et non au moment où je suis à mon pic, je suis à mon maximum.
C'est sûr que là, on parle de dans le fond, une entreprise sur le marché. Dans plusieurs cas, puis en particulier dans notre industrie du détail alimentaire, ce sont des transactions très émotives et très familiales.
Effectivement.
Est-ce que c'est un peu la même chose que tu recommanderais, oui?
Oh, il faut se préparer. Alors, c'est même plus long, hein? En familial ou si c'est les employés qui reprennent, là, le processus de transfert de connaissances là, va commencer là, 3 ans, 5 ans, 7 ans à l'avance. Tu as le temps, effectivement, de monter puis de descendre, mais ça te donne surtout le temps de valider la qualité ou le potentiel entrepreneurial de chacune des personnes qui ont de l'intérêt. Est-ce que réellement, ces gens-là sont capables d'être des entrepreneurs demain? Faire la distinction entre un entrepreneur puis un investisseur. C'est deux choses complètement différentes. Donc, première chose, c'est j'évalue le potentiel des gens qui ont de l'intérêt. Après ça, c'est qu'est-ce qui leur manque comme habileté pour faire en sorte au jour où on va arriver à la transaction, mais ils vont posséder tous les outils pour être capables d'assurer la continuité d'eux. Donc ça prend un certain temps. Puis le troisième élément, bien, c'est le transfert de la connaissance. Comment je prépare pendant les années précédant la transaction, là, tout le transfert de la connaissance que j'ai comme entrepreneur. Tout ce que je sais, tout ce que je fais par instinct, comment je suis capable de décortiquer ça puis de le transmettre à ma relève. Puis ça, c'est le bout le plus difficile souvent.
Pourquoi? C'est où ça accroche?
Bien, c'est parce que souvent, l'entrepreneur, là, c'est pas un enseignant, c'est pas un formateur. Puis transformer en mots sur papier des processus qui sont de façon innée dans sa tête, c'est extrêmement difficile. Fait que souvent, ça va prendre quelqu'un à côté qui est soit un coach, soit un pédagogue qui va être capable de dire, OK, Ça, tu crois que c'est important de le transférer? Parfait, on va le documenter. Maintenant, voici comment on va coacher la personne, comment on va enseigner à notre élève à acquérir cette connaissance-là. Donc, il faut sortir l'inné puis le mettre sur papier. Ça, c'est un long processus. Ça peut être complexe des fois.
Donc, ça dépend vraiment du mix qu'on a.
En plein ça.
Vendeur et repreneur.
C'est ce qui est le fun en transfert d'entreprise. Hein. Chaque projet est fonction des gens qui sont là. Il n'y a pas une seule recette qui s'applique à tout le monde.
On a parlé dans le fond d'un transfert en entreprise familiale. On a parlé d'un transfert sur le marché. Est-ce qu'il y a d'autres repreneurs potentiels?
Bien, comme je le disais, au marché, on peut avoir trois types de repreneurs. On peut avoir monsieur, madame, tout le monde, qui ont accumulé une certaine aisance financière, puis ils ont le goût de s'acheter une entreprise le matin. Ils ont le goût de devenir entrepreneur. Donc, c'est une clientèle professionnelle ou entrepreneur indépendant. Tu as les grands groupes qui vont décider par développement de leur marché à faire des acquisitions qui sont un peu plus stratégiques. Puis de l'autre côté qu'on voit, on le voit un petit peu moins au Québec, on va le voir davantage en Ontario, dans l'Ouest canadien, aux États-Unis aussi. Ce qu'on voit, là, les tendances, là, c'est ce qu'on appelle des equity funds, des fonds d'investissement. Donc, qui arrivent, qui ont le désir de se bâtir un créneau en faisant des acquisitions de 5, 10, 15, 20, 30 entreprises du même domaine. Puis là, ils vont arriver avec se bâtir leur propre projet. Puis ceux-là, on les voit pas encore beaucoup ici au Québec. On va les voir apparaître, là. Si vous regardez certains segments de marché là, actuellement, là, les cliniques vétérinaires, entre autres, on va voir, il y a des groupes, là, Ontario, Québec, États-Unis, là, qui font des acquisitions importantes. On le voit au niveau des dentistes. Il y a des groupes qui commencent à se consolider, qui vont acheter, surtout au niveau de la santé, là, on va voir là, qu'ils vont acheter là, 5, 10, 15, 20 succursales ou professionnels pour se bâtir un groupe financier. Ça change la donne. Parce que ce que ça veut dire, ce type de transaction-là, c'est ce qui est important, c'est la valorisation. Donc, c'est quoi le pricing le plus intéressant? Puis l'autre facette qu'on voit apparaître beaucoup, mais c'est ce que j'appelle les transactions mixtes. Donc, quelqu'un de l'extérieur qui arrive avec la famille ou qui arrive avec les employés, ils vont se bâtir un projet d'affaires ensemble. Ou ce qu'on voit à l'occasion, c'est des entrepreneurs qui ont une belle connaissance, un bon bagage d'acquis dans les dernières années, qui n'ont pas nécessairement la capacité financière. Ils vont aller chercher un equity fund, ils vont aller chercher un partenaire familial qui va les aider financièrement à faire l'acquisition. Ils vont être partie du groupe, ils vont probablement être minoritaires au projet, mais ils vont être là puis ils vont être capables de faire la transaction parce que ils sont perçus comme étant d'excellents entrepreneurs potentiels.
Merci d'avoir été des nôtres pour cette première partie sur la reprise d'entreprise. La semaine prochaine, nous allons conclure ce sujet en abordant l'accompagnement, le financement et le taux de réussite du repreneuriat. Je vous dis à très bientôt pour un autre balado de l'ADA. Nous tenons à remercier notre partenaire de diffusion, Banque Nationale.